Nova Stories.
Nova Stories.
La musique,
ça se raconte.
Bon.
Oh. Ah, me voilà.
Nova Mystique. Entrée dans la transe. Une Nova Story de Sophie Marchand en collaboration avec BNF Collection Sonore. Épisode 2. Comment immortaliser la transe?
La transe, c'est un état de conscience modifié. Celui qui est en transe peut se métamorphoser, quitter son corps ou se sentir un autre. Sa crise peut être mystique, chamanique, curative. Et l'art de la transe se transmet de génération en génération à travers le monde. D'ailleurs, il existe dans nos musées et nos bibliothèques des archives géniales des musiques mystiques. Mais quand on est un ethnomusicologue, comment immortalise-t-on ces instants suspendus sans risquer de les perturber? Qui sont ceux qui ont tendu leur micro et leur caméra à la découverte des musiques de procession et où sont archivés ces trésors? Pas de traces des musiques de transe sans ceux qui les ont conservées, et c'est le sujet de notre Nova Story qui s'offre aujourd'hui un petit détour guidé par les pionniers du genre dans les archives sonores de la BNF.
Nova Stories.
Nova Stories jusqu'à 13h. La musique se raconte sur Nova.
Gilbert Rouget, auteur notamment de La musique et la transe, que l'on a croisé dans l'épisode 1 de cette Nova Story, est un des pionniers des enregistrements et des productions sonores de terrain. Dans le documentaire L'ethnologie en héritage, il raconte ses missions et sa méthode.
En 1946, je suis effectivement parti dans une mission qui avait pour objectif de faire des films ethnographiques. Nous avions deux cinéastes professionnels, eux tournaient en 35 mm, et moi j'étais l'homme du son, ou plus exactement, j'avais l'avantage d'avoir un extrêmement compétent ingénieur du son qui était professeur au Conservatoire des Arts et Métiers. Et ça se passait au Congo et au Gabon. Et l'objectif principal de la mission était de tourner un film sur les pygmées, qui étaient des gens qui étaient encore auréolés de mystère, qui sont maintenant très bien connus. Et nous avons rapporté les premiers films sur les pygmées du Congo et les premiers enregistrements que je me suis empressé de publier sur 78 tours à l'époque, en 1947. Et moi, ce que je faisais, je choisissais les musiciens, je faisais des enquêtes, je me disais c'est ça qu'il faut faire. Et chez les Pygmées notamment, où je m'étais installé dans un village différent des cinéastes, parce que je dois dire que la compagnie des cinéastes m'irritait légèrement. Et donc je ne voulais pas être avec eux, et puis je n'avais pas envie d'être avec d'autres blancs. Moi j'avais envie d'être avec les gens chez qui j'étais. Je vivais donc dans un autre petit village, en compagnie d'une charmante congolaise, d'ailleurs, dont je garde un grand souvenir. Et je travaillais avec un autre petit campement pygmée. Et j'étais devenu relativement intime avec eux. Et grâce à cela, les cinéastes ont pu filmer un fabuleux rituel pygmée et enregistrer de la musique pygmée de tout premier rang.
L'ethnomusicologie, littéralement le discours scientifique de la musique de l'ethnie, est une discipline qui se structure dans les années 30 grâce à l'ouverture du service d'organologie musicale au musée d'ethnographie du Trocadéro. Cet acte fondateur est initié par Paul Rivet et son assistant André Scheffner. À cette époque, quand ces pionniers du genre se rendent sur le terrain pour étudier les musiques d'un point de vue anthropologique, ils prennent des notes, ils se servent de la transcription solfégique et s'intéressent aux instruments comme des témoins de l'universalité de la musique. Mais faute de moyens, ils ne gardent jamais de traces audio de leurs recherches. Alors le véritable bouleversement de la discipline intervient en 1931. Pendant la mission Dakar-Djibouti, André Scheffner transporte avec lui un enregistreur. Avant même la caméra, cet appareil est une révolution qui permet d'enregistrer les chants, les cris, les rires, les sons des instruments. Dans ses valises, l'ethnomusicologue rapporte désormais les tout premiers enregistrements de terrain et ils sonnent comme ça.
Dakar-Djibouti, 16 novembre 1931, tout en français, 100 gars, 3 danses, un homme boy, d'un homme boy, Taïkyo.
Ces sons, fragiles et rares, ont été enregistrés dans les années 30 sur des cylindres de cire à gravure directe, grâce au phonographe et au moyen d'un stylet relié à un diaphragme. Au total, Marcel Griol, le chef de la mission, et André Scheffner, le musicologue, rapportent 24 cylindres qui représentent plus de 120 enregistrements, linguistiques, ethnographiques ou musicaux. Et cette façon de graver le réel change absolument tout. Gilbert Rouget, qui devient en 1942 l'assistant de Scheffner, est catégorique à ce propos. Pour lui, l'enquête anthropologique ne sert qu'à commenter le matériau sonore collecté en mission. C'est-à-dire que l'enregistrement est sinon la seule, du moins la plus importante source d'information pour l'ethnomusicologue. En 1946, Rouget reçoit un ordre de mission de Paul Rivet. Au cœur de cette mission Ougoué-Congo, peut-on lire, Monsieur Rouget recueillera des documents musicaux et linguistiques de première importance. Il compte ramener en particulier 500 faces de disques constituant autant de documents différents concernant des populations dont on ne possède à l'heure actuelle aucun enregistrement. Les enregistrements, faits à l'époque sur disque piral, seront destinés d'une part à la sonorisation des films documentaires et d'autre part à une édition de disques durs. Car dès 1948, le Musée de l'Homme édite Notes sur les disques, une série de 50 exemplaires de 78 tours, pressés à partir des enregistrements de la mission de 1946, et en voici un extrait. Gangangélé, du chant et une sitar, enregistré en 1946 par Gilbert Rouget.
Nova Stories.
À partir des années 50, l'usage du magnétophone se diffuse et se démocratise chez les ethnologues. Les enregistrements de terrain sont de meilleure qualité, au plus proche de la réalité sonore, et permettent de saisir autant des contes que des chants ou de simples bruits de la nature. Au total, Rouget, qui se passionne vite pour les musiques mystiques et les musiques de trance, effectue quelques 20 missions, dont 17 en Afrique et principalement au Bénin. Sa réflexion s'affine et il se spécialise dans les analyses comparées entre les caractères musicaux, les chromatismes mélodiques d'ici et d'ailleurs. À son époque, l'ethnomusicologie vit dans une certaine urgence. Il faut recueillir, avant qu'ils ne disparaissent, les sons rituels, les chants et les traditions menacées par la modernité. Évidemment, on peut se demander si l'ethnomusicologue ne risque pas déjà, avec son enregistreur et sa caméra, de perturber la mystique. Mais la question de savoir si l'on peut réellement documenter le sacré sans le déposséder n'est pas la seule problématique de la discipline. Car une fois recueilli, que faire de ces trésors? Où les stocker? Comment les valoriser? Ces témoignages musicaux précieux, nous les trouvons aujourd'hui notamment dans les collections de la BNF. Voici la musique des princes, un son enregistré dans la tribu des Tohoussous. Et dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, on peut découvrir environ 1 million d'enregistrements de ce genre, de tous les genres, de toutes les époques et dans tous les états. Certains cylindres sont difficilement datables, parfaitement uniques, tandis que d'autres données sont déjà numérisées. Dépositaire d'une immense collection et de trésors inestimables, la BNF joue donc un rôle clé dans la conservation et l'exploitation de ces archives qui servent autant aux chercheurs spécialistes qu'aux digueurs curieux.
Nova Stories.
Revenons à la fin des années 40. Dans ces années-là, Gilbert Rouget crée des éditions de disques. À cette époque, la politique des ethnomusicologues n'est plus simplement de collecter, mais aussi de présenter au large public les enregistrements de musique traditionnelle effectués sur le terrain. Ces œuvres présentent l'inconnu, l'inouï, l'occulte. Et les disques qui sortent sont accompagnés de livrets et de notices d'information dans une visée pédagogique. Ainsi, dans la notule de ce vinyle de 1952 consacré à la musique du Dahomey et de Guinée, on peut lire cela. Berceuse. Il est un peu surprenant pour un occidental d'entendre une berceuse chanter ainsi à pleine voix. C'est moins l'action de bercer qui est ici importante que les paroles de louange qu'adresse une mère à son enfant. Ces disques que l'on trouve notamment dans les collections de la BNF témoignent d'un grand changement. Désormais, dans les années 50, les Français ont chez eux des tourne-disques et l'industrie du disque commence à s'intéresser à ces musiques d'ailleurs. Forcément, cela a une conséquence sur la façon d'envisager l'exploration même des nouveaux territoires musicaux. De l'ethnomusicologie d'urgence, on est passé à une problématique de production commercialisable. Le public a désormais les oreilles tendues vers le monde entier et l'exotisme se vend bien. Forcément, cela change aussi le regard des ethnologues et des musicologues sur le terrain. Le format de diffusion, à savoir le vinyle puis le disque, va désormais guider la façon même d'aller enregistrer le son et de répertorier les musiques du monde. Alors que les premières missions du genre consistaient à glaner des sons pour les sauvegarder, il est désormais question de produire, d'enregistrer et de commercialiser certaines de ces musiques du monde. La world music devient un fantasme collectif pour le meilleur et pour le pire. Gilbert Rouget s'inquiète d'ailleurs des métissages destructeurs induits par la world music et selon lui, la nouvelle urgence de l'ethnomusicologie, c'est de lutter contre la confusion grandissante, et pas seulement aux yeux du public, entre ethnomusicologie d'une part, showbiz et world music de l'autre. Évidemment, il n'est pas simple de définir les frontières de la world music. S'agit-il d'une musique populaire et traditionnelle enregistrée en studio, formatée pour un public occidental, taillée pour coller à la durée d'un disque, ou peut-on y voir plus simplement une tentative assez sincère de faire entendre l'ailleurs à un public non avisé ? Nous reviendrons sur les risques de folklorisation des musiques mystiques avec une escale sur les plages de Goa et par les raves des années 90. Mais avant cela, demain, entrons corps et âme dans la transe pour évoquer les instruments de celle-ci. Sortez les tambours et mettez-vous à tourner. Demain, dans cette Nova Story, nous dansons la transe.
Mas tu calendar mas tu 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 mas t
C'était l'immense musicien pakistanais Nusrat Fateh Khan avec son morceau Doom Mast Kalandar Mast Mast, une très bonne introduction à notre épisode de demain qui parlera de la musique de la danse soufie. À demain.
Nova Stories.
Ah, ben voilà.
Nova Stories, des histoires à réécouter et podcaster sur nova.fr.